자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
La parole se trouve aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 10 verset 22 à 39.
Jean 10장 22절에서 39절의 말씀을
Lisons à tour de rôle. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspense? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, « J'ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes Dieu ?» Si elle appelait Dieu ce à qui la parole de Dieu est adressée, et l'Écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites du blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne m'y croirez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus en alla de nouveau au de là des Jourdains, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Prions pour l'évêque Dongim pour qu'il soit rempli de l'inspiration du Saint-Esprit et de la sagesse, de la connaissance, de la sagesse de la parole. Prions. Merci de nous commander ce jour saint. Nous avons obéi. Ouvre ton cœur, donne ta grâce et que nous ayons la vie qui sort de toi. Je prie au nom de Jésus. La parole d'aujourd'hui est importante. Écoutez-la bien, attentivement. Même si je vous ai parlé de façon évitée, nombreuse, vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. C'est vraiment incompréhensible. Jésus, le Dieu unique. Lisez le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu de la Trinité. Il est le Dieu qui est venu au monde en tant que celui qui vit éternellement. Ne le méprisez pas, lui qui est un Nazaréen. Il est notre Dieu unique. Ne méprisez pas, lui qui a été crucifié. Il est notre Dieu unique. Il est notre Dieu unique devant lui. Même les démons tremblent. Il est notre Dieu unique devant lui. Même les maladies partent. Et il est notre Dieu unique qui ressuscite même les morts. Jésus est le Dieu unique qui est notre vie. Il est notre Dieu dont le Saint-Esprit témoigne. Il a été ressuscité en nous. Jésus est le Dieu unique qui est la vérité inchangeable et qui est le chemin de notre vie. Dieu ne demeure pas ailleurs. Il est le Dieu qui est entré en nous par le Saint-Esprit. Jésus est le Dieu unique qui s'est fait connaître au monde pour nous sauver. Notre Dieu est le Dieu de la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Nous écoutons cette parole-là de manière répétée. Nous devons écouter bien cette parole-là parce que c'est une question de vie et de mort. C'est une partie très importante. C'est le chemin qui nous mène à la vie ou à la mort. Notre Dieu est le Dieu de la Trinité. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Pendant des décennies, notre Église a été condamnée comme une hérésie. Mais c'est parce qu'ils ont mal interprété la parole de Dieu. Donc, ce sont leurs propres arguments, tout simplement. Mais moi, pendant un demi-siècle, je vous dis clairement que si nous ne comprenons pas bien la vérité, nous serons dans l'erreur. Le Père, le Fils et du Saint-Esprit constituent le Dieu de la Trinité. Mais donc, lorsqu'on parle de la Trinité, on utilise le mot « oui » en coréen qui signifie la position. Donc, certains disent en la matière Dieu. Possède la position du Père, celle du Fils, celle du Saint-Esprit. Mais si on le dit, et il signifie qu'il y a trois dieux. Donc ceux qui nous critiquent affirment qu'il y a trois dieux. C'est un argument vraiment dangereux. C'est pourquoi il est dit dans Jean, il est dit, qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de croire au Dieu unique et en Jésus-Christ qu'il nous a envoyé. Notre Dieu est un. Il nous a envoyé son Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de la position, en coréen, oui, donc il y a trois dieux signifie qu'il y a trois trônes. Mais ça, ce n'est pas la théorie du christianisme. Mais un certain nombre de personnes veulent accepter cet argument, mais ils ne seront pas sauvés s'ils s'y attachent. Ce n'est pas ma parole, mais c'est celle de Seigneur Jésus. Il faut que nous connaissions le Dieu unique. À ce moment-là, il y aura le salut. Mais certains autres disent en fait, et on parle de la personnalité de Dieu. Alors là, certains disent qu'il y a une seule personnalité de Dieu. Quel est le problème dans cet argument? Lorsqu'on parle de la personnalité de Dieu, on parle de l'intellect, de l'affection et de la volonté. Donc, il y a trois éléments dans la personnalité de Dieu. Donc, il y a le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il y a une seule personnalité. Donc, si on n'est pas bien éveillé, on peut se tromper facilement là-dessus. Mais ça aussi, c'est une hérésie lorsqu'on dit qu'il y a une seule personnalité de Dieu. La personnalité, qu'est-ce que c'est en fait? Il y a trois personnalités de Dieu, celle du Fils, celle du Père, celle du Saint-Esprit. Donc il y a d'abord la personnalité de Dieu le Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Facilement parlant, il y a la volonté du Père, celle du Fils et du seul Saint-Esprit. Ces trois volontés sont indépendantes et différentes donc. Donc, ces trois personnalités sont indépendantes et différentes. Donc, lorsqu'on parle qu'il y a un seul Dieu, il ne faut pas penser à tort qu'il y a une seule personnalité de Dieu. C'est catastrophique. Lorsque j'étais au séminaire théologique, j'ai écouté donc attentivement les explications des professeurs concernés. Mais moi, en fait, comment j'ai cru n'est pas sorti de moi-même, mais j'ai beaucoup lu la Bible et je l'ai compris par le Saint-Esprit, j'ai compris la vérité. Donc, alors là, j'ai compris la Trinité de Dieu et par le Saint-Esprit. Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans le monde. Ce Fils a été ressuscité et il est monté dans les cieux et il a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Et Dieu le Père, alors qu'est-ce que Jésus a dit? Alors, quiconque fait la volonté de Dieu le Père pourra entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que celui qui fait la volonté de Dieu le Père sera sauvé. Donc, Jésus a dit, je suis venu dans le monde, non pas pour faire ma propre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu le Père. Dieu le Père a sa propre volonté. Il est dit, Dieu le Père a tant aimé ce monde. Et alors Jésus, lors du baptême, lorsqu'il est remonté des eaux, Dieu le Père a dit en matière de son Fils, c'est mon Fils bien-aimé qui fait ma joie. Voilà, c'est ainsi que Dieu le Père a une affection. Et Dieu le Père connaît tout. Il connaît le passé, le futur. De ce point de vue, il est omniscient et omnipuissant. Donc, il connaît tout. Et concernant le Fils, il a aussi sa propre volonté. C'est pourquoi lorsqu'il a prié à Gethsémané, Père, que ta volonté se fasse. Non pas la mienne. Bien sûr, lorsqu'il a prié au début, il a prié pour l'accomplissement de sa volonté, parce qu'il a sa propre volonté selon laquelle il a prié. Mais finalement, il a cédé. Et puis ensuite, il a prié pour l'accomplissement de la volonté de Dieu le Père. C'est ainsi qu'il pouvait choisir selon sa propre volonté. Et le Seigneur Jésus a dit, « Moi, je vous aime pour que ma joie vous remplisse. » C'est ainsi qu'il a une affection aussi. Et en plus, Jésus a dit, « Si je vous dis tout ce que je connais, vous ne pourrez pas supporter, mais le Saint-Esprit viendra ultérieurement et il va vous enseigner tout. » C'est ainsi que Jésus a un intellect. Et quant au Saint-Esprit, il a sa propre volonté. Et il distribue ses dons. Le Saint-Esprit attribue ses dons selon sa propre volonté. Et le Saint-Esprit nous aime. Voilà. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit prie en notre faveur avec des soupirs inexprimables. C'est ainsi que le Saint-Esprit a une affection. Et le Saint-Esprit connaît tout et il nous enseigne tout. Voilà, c'est ainsi que le Saint-Esprit a un intellect. C'est pourquoi le Saint-Esprit connaît Jésus et il parle de lui. C'est pourquoi il faut que nous comprenions Jésus par le Saint-Esprit. À ce moment-là, on aura la vérité, on aura la connaissance de la vérité. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Les gens n'ont pas compris les paroles de Jésus-Christ, mais par le Saint-Esprit, ils pourront arriver à les comprendre. Donc le Père a une personnalité, c'est-à-dire que le Père a sa propre volonté, et il en a le même pour le Fils, et il en a le même pour le Saint-Esprit. Donc il y a trois personnalités de Dieu, mais ils sont un, ils font un. Donc, il y a un seul Dieu. Comme je vous ai déjà dit, celui qui est unique est notre Dieu le Père. Il est impossible qu'il y ait deux dieux. C'est impossible. Lui, il est unique. On peut faire tout, mais en ce qui concerne la vie et la mort, il y a un seul Dieu qui est notre Dieu le Père qui peut régler la question de la vie et de la mort. Il est unique, il est notre Dieu. Lui, c'est Jésus-Christ. Donc, il est dit que celui qui a vu Jésus est celui qui a vu Dieu le Père, et on pourra connaître Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus nous enseigne par le Saint-Esprit et il travaille par le Saint-Esprit. C'est ainsi que lorsqu'on parle des dieux de la Trinité, on parle de trois personnalités de Dieu. Donc, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnalités de Dieu. Il est le Dieu de la Trinité. Alors, Jésus est notre Dieu, est Dieu, le Dieu unique, qui est venu en tant que celui qui vit éternellement. Lisons encore une fois le résumé du sermon d'aujourd'hui et enseignez ce Dieu à vos enfants. Si vous êtes père ou mère, si vous êtes grand-père ou grande-mère, et enseignez bien vos enfants ou vos petits-enfants pourquoi il est notre Dieu le Père. Donc, voilà, le résumé du sermon est très important, utilisez-le. Lisons encore une fois le résumé du sermon d'aujourd'hui. À votre, Dieu est le Dieu de la Trinité, il est le Dieu qui est venu au monde en tant que celui qui vit éternellement. Ne le méprisez pas, lui qui est un Nazaréen. Il est notre Dieu qui est unique. Ne le méprisez pas, lui qui a été crucifié. Il est notre Dieu unique. Il est notre Dieu unique devant lui, même les démons tremblent. Il est notre Dieu unique devant lui, même les maladies partent. Il est notre Dieu unique qui ressuscite même les morts. Jésus est notre Dieu unique qui est notre vie. Il est notre Dieu dont le Saint-Esprit témoigne. Il a été ressuscité en nous. Jésus est notre Dieu unique qui est la vérité inchangeable et qui est le chemin de notre vie. Dieu ne demeure pas ailleurs, mais il est le Dieu qui est entré en nous par le Saint-Esprit. Jésus est notre Dieu unique qui s'est fait connaître au monde pour nous sauver. Considérer le résumé du sermon comme très précieux, parce que c'est très simple comme explication, et puis ensuite enseignez-le à vos enfants, à vos descendants. Si on ne le connaît pas, et ensuite si on le cherche, et rien n'arrivera, on est en fait dans les airs, dans la vanité. Les coureurs doivent connaître leurs objectifs, ils doivent une certaine direction à prendre lorsqu'ils courent. Et il ne faut pas battre l'air sans aucune direction. N'est-ce pas? Donc, il faut que nous soyons dans la connaissance correcte et parfaite. Même si Jésus est tout à côté de nous, et on le renie, on le persécute et on le méprise parce qu'on ne le connaît pas, Et même Pierre aussi hein, a réagi d'une telle manière. Et alors, même si Jésus est devant nos yeux, il y a beaucoup qui réagissent d'une telle manière. Pourquoi? Parce que et lorsqu'on voit l'apparence de Jésus, et on ne peut pas... Certains imaginent Jésus de leur propre manière et ils pensent à tort que Jésus a une image splendide et somptueuse et qui est semblable à l'éclair. Mais il a été un Nazaréen qui n'avait rien envié. Alors là, cela ne correspond pas du tout à notre connaissance générale. Mais notre foi, ce n'est pas un bon sens de ce monde, mais la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi transcende le bon sens de ce monde. Et pour le bon sens, c'est pas la peine d'y croire. Par exemple, 1 plus 1, c'est 2. Ça, c'est tout à fait naturel, normal. C'est pas la peine d'y croire. Et c'est une évidence, n'est-ce pas? Et il faut que nous croyions de ce que nous ne pouvons pas voir et ce que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est ça la foi. C'est la raison pour laquelle. Et lorsqu'on s'attache à la connaissance générale de ce monde, on ne peut pas croire en Jésus. Et lui, il a été le Christ dont les prophètes ont témoigné, que les prophètes ont prophétisé. Et lui, en fait, il a... En fait, les prophètes n'ont jamais mentionné le village de Nazareth. Pendant 30 ans, Jésus s'est caché à Nazareth. Parce qu'à Nazareth, il n'y avait pas... il n'y avait aucune prophétie qui mentionnait Nazareth. C'est la raison pour laquelle personne ne pouvait envier Jésus, personne ne pouvait nuire à lui. Et donc, Jésus est venu en tant que Nazaréen. Et alors, au niveau religieux, au niveau de la foi des Juifs, Jésus ne correspondait pas du tout aux prophéties données. C'est la raison pour laquelle... Au niveau de la raison humaine, Jésus n'était pas quelqu'un de remarquable, mais nous croyons que Jésus est notre Dieu. C'est pourquoi il faut que nous soyons devant ce Dieu unique, et il faut que nous lui obéissions, et il faut que nous le suivions en croyant en lui. Donc il a été crucifié. Et il a été, en fait, accusé, condamné, critiqué sur la croix. Même sur la croix, parce qu'il y a eu deux brigands à côté de Jésus. L'un l'a critiqué, méprisé, mais l'autre a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi lorsque tu entres au royaume des cieux. » Alors Jésus lui a dit, « Tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ainsi que, donc est-ce qu'on l'admet ou lorsqu'on le reconnaît pas? Et donc, il y a une grande différence entre ceux qui le reconnaissent et ceux qui ne le reconnaissent pas. Et Hébreux, chapitre 7, on parle de Melchizedek. Il était le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de la paix et de la justice. C'est ça la signification du nom Melchizedek. Mais Melchizedek qui a rencontré Abraham n'avait pas d'appartenance. Il a agi comme un paravent. Donc, il n'avait pas d'appartenance. Et c'est pourquoi. Et on peut imaginer la qualité de son vêtement. Il était, son vêtement était en fait misérable, minable. C'est pourquoi, même s'il passe devant nous, personne ne s'intéresse pas à lui. C'était méprisable, en fait. C'était misérable. Mais quelle était la foi d'Abraham? La foi d'Abraham, qu'est-ce que c'était? Et Abraham, et a fait la guerre, et puis il a obtenu des butins, et il a dédié à Melchizedek le dixième de cette obtention. Ensuite, il a été béni de lui. Et qu'est-ce que la Bible dit en la matière? Celui qui est en bas et ne peut pas bénir celui qui est en haut. Et c'est le supérieur qui peut bénir l'inférieur, parce que la bénédiction vient d'en haut, comme la pluie. Et à la fête des Nouvel An, il y a donc la salutation. Des petits-enfants, hein, et à l'égard de leurs parents ou grands-parents. Mais ce ne sont pas les enfants qui peuvent bénir leurs parents ou leurs grands-pères, grands-parents. Ce sont les supérieurs qui peuvent bénir les inférieurs. À l'église, par exemple, même si un pasteur est plus jeune que nous, il peut nous bénir parce qu'il est serviteur de Dieu. Alors, il le bénit, n'est-ce pas? Donc, il le bénit. Donc, la bénédiction vient d'en haut. Cela signifie que la bénédiction est versée à partir du haut comme la pluie. C'est ça le principe de la venue de la bénédiction. Et alors, Abraham a été béni de Melchizedek qui n'avait aucune appartenance, qui était minable et misérable, dont le vêtement était très, très minable. Mais il a été béni de lui. Abraham a été béni de lui. C'est parce que Abraham n'a pas regardé son apparence, mais il l'a considéré tout simplement comme un prophète, comme sacrificateur, comme roi de Salem, c'est-à-dire comme le roi de la paix et de la justice. C'était le nom du Christ. Il a été semblable au Christ, au Messie. Parce que Abraham pensait au Messie lorsqu'il a rencontré Melchizedek. C'est la raison pour laquelle, devant Melchizedek, il s'est agenouillé. Et si Abraham avait vu son apparence, et, alors Melchizedek n'était pas quelqu'un de riche, il n'était pas un vainqueur, il n'était pas non plus quelqu'un de somptueux, de sophistiqué, mais il était quelqu'un comme un mendiant, et il était très, très misérable, rien d'enviable. Mais Abraham était très sincère. Son cœur était sincère lorsqu'il était devant lui. Abraham n'a pas vu son apparence, mais en fait, il a considéré Melchizedek comme quelqu'un semblable au Christ. Et lorsqu'il a écouté tout simplement son nom. Et ensuite, et Abraham n'a posé aucune question à Melchizedek. Et Jacob a demandé le nom de celui qu'il a rencontré, mais Abraham n'a posé aucune question à Melchizedek. Et il ne lui a pas demandé son origine, sa destination, même ni son âge, ni son appartenance. Il n'a posé aucune question à Melchizedek. C'est un point très important, en fait. Donc notre Dieu n'a ni commencement ni la fin, il est éternel. Il est le Dieu éternel en fait. Et alors, à ce Dieu, nous, on se dédie et on donne la dîme. Après avoir donné la dîme à Dieu, et on s'interroge sur l'utilisation de ces dîmes. Et ensuite, on se pose la question sur l'utilisation de ces dîmes. Et puis, on parle de la question de la transparence. C'est parce qu'on est dans l'incrédulité. Mais quel était comment le comportement d'Abraham et l'égard de Melchizedek? Il n'a posé aucune question à Melchizedek concernant son appartenance, son origine. Mais en fait, il n'a pas regardé son apparence. Mais Abraham a cru seulement au nom de Melchizedek, c'est pourquoi il a été béni. C'est ça notre foi. Donc, est-ce que vous intéressez à l'utilisation des offrandes dédiées par vous? Notre église, à notre église, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Facilement parlant, et par exemple, il y a 100 membres à l'église, 100 arc. Mais même si ces 100 personnes donnent des offrandes, il est difficile de supporter même un seul pasteur financièrement. Il est difficile de supporter un pasteur ou un ministre avec les offrandes données par 100 personnes. Et à ce moment-là, on ne peut pas acheter de terrain, même on ne peut pas construire d'église, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle... Si un seul pasteur supporte 3000 membres, il pourra construire une église. Sinon, c'est impossible de construire un bâtiment de l'église. C'est ça la réalité. Et alors vous, en fait, vous donnez les offrandes. Il y a beaucoup de pasteurs assistants, il y a beaucoup d'employés. Donc, il y a beaucoup d'argent qui doivent être utilisés pour la gestion de l'église. Et chaque année, on donne les offrandes de dédication, et avec ces offrandes de dédication, et on paie les intérêts, et on paie aussi les principales. Et notre église a utilisé un système spécial pendant un demi-siècle, selon ce système, et on... emprunte, ensuite on rembourse. Par pion, ça coûtait 17 300 won dans le passé. Mais ce prix a été multiplié par 12 000 fois. Donc moi, en fait, j'ai utilisé la sagesse de Dieu et l'intelligence que Dieu m'a donnée. Et alors, j'ai pu acheter le terrain de quartier Singleton avec un budget très, très réduit grâce à la sagesse de Dieu. Mais il y a beaucoup ceux qui se plaignent contre la gestion de l'Église. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être bénis de Dieu. Alors Abraham a donné sa dîme à Melchizedek, mais il n'a posé aucune question à lui. Il n'a posé aucune question à Melchizedek concernant son origine, sa destination, son âge. De la même manière, on ne peut pas poser de questions intelligentes et à Dieu le Père. Parce que Jésus est notre Dieu unique. Et selon notre propre raison, et on peut le mépriser, mais à ce moment-là, on ne peut rien obtenir de lui. Notre église compte beaucoup de membres, mais on a été blessés ces jours-ci. Et c'est vraiment dommage. Hein? Mais moi, en fait, moi, je pense que Abraham chérissait Sodome et Gomorre où même son neveu vivait. Mais Dieu lui a dit, je vais détruire, anéantir ces deux villes. Donc Abraham lui a dit, si tu trouves 100 justes dans ces deux villes-là, je ne le détruirai pas. Et ensuite, Abraham a dit 50 justes, ensuite 30 justes. Alors, Dieu a accepté cette demande, mais ensuite 20 justes. Alors, Dieu a aussi accepté cette demande, mais alors Abraham a dit pour la dernière fois, il y a 10 justes dans ces deux villes. Est-ce que tu pourras sauver ces deux villes? Donc, Dieu a accepté cette demande d'Abraham. Mais ces deux villes ont péri parce qu'il n'y avait pas même 10 justes. Donc, Abraham ne pouvait plus faire de demande. Donc, Sodome et Gomorre ont péri, tout simplement. Lorsque j'ai planté cette église, il y a un certain nombre de personnes qui ont quitté cette église et qui l'ont abandonnée. Moi, mais j'ai pitié d'elles, mais je n'ai pas été ébranlée à cause de ces personnes-là. Parce que moi, en fait, je m'attache aux 10 justes qui restent. En fait, il y a donc moi, je suis devant vous. Donc, il y a en fait un grand nombre de personnes qui sont devant moi. Donc, pour vous, je prie beaucoup et je veux avoir beaucoup d'inspiration pour vous prêcher l'Évangile. Pendant un demi-siècle, j'ai été vraiment persécutée à cause de cette persécution et j'ai. Utiliser toute mon énergie pour pouvoir vous enseigner plus efficacement et pour ne pas critiqué injustement. J'ai écrit beaucoup de livres et pour faire connaître. Publiquement, ce que j'ai obtenu de Dieu. C'est ainsi que je me suis maintenue jusqu'à présent et c'est ainsi que je me suis gardée moi-même et j'ai gardé cette église. Moi, au début, lorsque j'ai planté cette église, pendant 2 mois, j'ai évangélisé sur la rue avec ma femme. Alors, c'était le 30 novembre 1965. On a rendu le premier culte. Et à ce jour-là, il y a eu environ... j'ai imaginé qu'il y aura une trentaine de personnes. Mais à 11 heures, lorsque ce premier culte commençait, il n'y avait que 7 personnes. Cela m'a beaucoup choqué. Et dans l'après-midi, il y a eu une trentaine de personnes. Donc, c'était le premier culte. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'envoie 10 personnes. Parce qu'il n'y avait que 7 personnes qui ont participé au culte dominical. Donc, pendant 4 ans, j'ai prié pour que Dieu m'envoie 10 personnes. Donc, comme un fou, j'ai prié pour cela. Et même en mangeant, j'ai prié pour ce sujet. Et j'ai prié en larmes pour que Dieu m'envoie 10 personnes. Donc, pour moi, une âme est précieuse, très, très précieuse. J'ai prié sans cesse à Dieu le Père pour qu'il m'envoie 10 personnes. Donc pendant 3 ou 4 ans, Dieu m'a envoyé beaucoup d'âmes. C'est pourquoi cette église a cru. Donc moi, j'ai le même cœur. Donc maintenant, le nombre de membres de l'église a fortement augmenté. Donc moi, mon cœur est sincère et vraiment ardent. Et moi, en fait, je veux élever les âmes qui sont devant moi. Et Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie, il est dit dans Jean chapitre 6 et 63. Donc, en fait, celui qui vivifie nos âmes, ce n'est pas la chair. Mais l'esprit, mais qu'est-ce que l'esprit, Jésus a dit, ce sont mes paroles qui sont l'esprit. Et mes paroles sont la vie et la vie. Et on ne parle pas du fichier X, n'est-ce pas, hein? Ce genre de choses nous choque et accuse, mais ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la vie. Et ça ne peut pas sauver les âmes. Cela ne peut pas nous permettre de vivre éternellement. Et ce sont les paroles de Jésus qui sont esprit et vie. Celui qui vivifie, c'est l'esprit qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Voilà, donc, ils mentent sans cesse et ils critiquent, ils condamnent, ils accusent sans cesse. Mais moi, ce que je fais, c'est de prêcher l'Évangile. Et alors, mon intérêt, c'est sauver les hommes. Et en fait, les critiques ne sont pas l'esprit qui sort de la bouche de Dieu. Ces critiques peuvent sauver leurs âmes. C'est vraiment c'est dommage. Qui pourra nous sauver? C'est ça la question que nous devons nous interroger. Dieu le Père a envoyé son Fils au monde et il a accompli sa volonté à travers son Fils et il agit en nous via le Saint-Esprit. Pour l'accomplissement de sa volonté. Et donc, il y a donc les œuvres effectuées par le Fils de Dieu et il y a aussi les paroles proférées par lui. Et ces paroles-là doivent être annoncées par nous via le Saint-Esprit. Donc, il faut que nous comprenions qui pourra nous sauver. Et il ne faut pas applaudir devant ceux qui critiquent. Eux, ils sont vraiment excités et ils se réjouissent lorsqu'ils écoutent des critiques, des accusations. Mais en réalité, ils méprisent leurs âmes et ils les maltraitent. Donc voilà, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Mais devant cette crise difficile, inédite, et devant cet environnement défavorable et nous avons choisi une vie, le côté spirituel, n'est-ce pas? Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Jésus nous a dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est esprit et vie. C'est la raison pour laquelle moi, je m'attache à la vérité. Donc, le résumé des sermons, regardez aussi mon message. Lisez mon message, Songjugam. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux doit être semblable aux enfants. Quel est le comportement des enfants? Et pourquoi Jésus l'a dit? Nous avons aussi tous été un enfant et l'enfant n'a aucune capacité, il ne peut rien faire. L'enfant ne peut que mourir s'il n'a pas sa mère. Donc il considère sa mère comme sa vie et il ne veut pas la quitter. Donc si on demande la question... à 10 enfants, ils pourront donner la même réponse. Alors, tous les enfants diront, je ne peux pas vivre sans ma mère. Ce n'est pas un mensonge. Et il n'a pas répondu à cette question après avoir fait des recherches. Et c'est une réponse très simple. L'enfant ne veut pas connaître son passé, le passé de sa maman, et il ne veut pas s'interroger sur l'origine de sa mère. Et seule sa mère peut sauver sa vie. C'est ça, sa foi. Donc, un orphelin sans maman est misérable. Et qui pourra sauver nos âmes et nos corps? On ne peut pas vivre sans lui. Et c'est lui qui est notre Dieu unique. Il est le Dieu unique qui vit éternellement. Et où se trouve ce Dieu? C'est Jésus-Christ. Il est notre vie unique. Sans lui, on ne peut pas vivre. Mon Dieu qui est ma vie, c'est Jésus. Il est mort, mais il est ressuscité en moi. Sa capacité, sa puissance, son inspiration, sa sagesse, sa vie et ont été ressuscités dans mon âme. C'est pourquoi le Saint-Esprit permettra sa manifestation. Mon âme qui ne peut pas vivre sans lui est entrée en moi, il a été ressuscité en moi. Il est ma vie, il est le Dieu unique qui me sauve. Et moi, je l'aime et moi, je voudrais marcher avec lui toute ma vie. Et je vous remercie. Et en fait, je vais quitter un jour ce pupitre. Mais je me prépare à s'y mettre aujourd'hui aussi pour prêcher la parole spirituelle en tant que son serviteur. Moi, en fait, devant mes yeux, il y a ceux qui crachent sur moi. Mais moi, je ne les haïs pas, mais j'ai pitié d'eux. Et alors, je fais toute ma force. Et j'ai pitié d'eux parce qu'ils ne s'occupent pas de leurs âmes. Il était mes saints que j'aimais beaucoup. Mais pourquoi il sert en me quittant? Et pourquoi il sert après avoir quitté sa famille et sa maison? Et ils doivent sortir de leurs émotions, de leurs sentiments. Ils doivent espérer seulement la conduite du Saint-Esprit. Mais il poursuit encore les sentiments humains et il erre ça et là, mais il ne pourra pas consoler leurs âmes. Moi, c'est moi qui les ai élevés et c'est moi qui les ai aimés. Mais il me haït et il ne veut pas écouter ma voix. C'est pourquoi leurs âmes s'assèchent. Mais moi, j'ai un cœur de mère. Alors, je voudrais que leur vie spirituelle soit conservée, où qu'ils soient.